Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Réveil culturel à la radio ou en podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, merci. Et vous le savez, tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Aujourd'hui, je reçois le scénariste Alain Hérol et le dessinateur Juanjo Guarnido qui viennent de publier une magnifique bande dessinée, une épopée picaresque, Les Indes Fourbes, aux éditions Delcourt. Coup de cœur partagé avec Olivier Delcroix du Figaroscope qui devrait pas tarder à nous rejoindre. Corinne Amar à la coordination, Vincent Bouchard à la réalisation, et Delphine Baudet à la prise de son ce matin. Le réveil culturel, c'est parti.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
C'est l'histoire d'un aventurier sans foi ni loi, Don Pablos de Ségovie, un véritable escroc, une fripouille, mendiant, traître, très drôle, quand la situation l'exige, complètement mythomane, en quête de fortune, et qui va atterrir en Amérique du Sud pour découvrir l'Eldorado. Comment on pouvait découvrir l'Eldorado à cette époque-là? Il raconte donc sa fabuleuse épopée de l'ancien au nouveau monde, en mentant comme un arracheur de dents de l'Espagne du XVIIe siècle, en 160 pages, au très grand format. Le dessinateur de la série Black Sad et le scénariste de la série de Cap et de Crow nous offre une bande dessinée époustouflante de par son histoire, de par son traitement graphique et aussi de son découpage très original. Bonjour Alain Hérol, bonjour Juanjo Guarnido. Alors, Les Indes Fourbes, c'est une bande dessinée qui est la suite d'un roman. D'un roman célèbre qui a marqué du moins la littérature espagnole. De quel roman s'agit-il?
Bonjour. Ben, tout à fait. Il s'agit de La vie du Buscón, qui est un grand classique et un des pièces maîtresses de la littérature picaresque du siècle d'or espagnol. C'est ouais. le 17e siècle. Enfin, le siècle d'or s'étend entre une partie du 16e et le 17e. C'est l'époque de Cervantes, c'est l'époque de Lope de Vega et notamment de Francisco de Quevedo, qui est l'auteur de ce roman picaresque, qui est c'est pas une nouvelle, mais c'est un petit roman, mais qui est d'une telle densité, ça correspondait à un style que Quevedo arborait, qui s'appelait le conceptisme, qui est un style baroque, mais pas baroque sur la forme, mais sur le fond. Et ça donne un style d'une densité de sens, au niveau du sens et du fond, des doubles sens des mots, de la profondeur des références, de la complexité des non-dits. C'est spectaculaire. Et d'ailleurs, Alain en sait quelque chose parce qu'il en a parlé pour...
Vous étiez au courant de l'existence de ce livre très important, de cet auteur qu'on compare à Molière en Espagne?
Je ne connaissais pas... Je connaissais Quevedo de nom, mais je n'avais pas lu ses œuvres et je connaissais un petit peu la littérature picaresque puisque j'avais lu notamment le Lazarillo de Tormes, qui est un autre classique de la littérature picaresque espagnole. Mais je connaissais pas le Buscón. C'est Juanjo qui me l'a fait découvrir. En fait, tout est parti d'une idée que j'avais eue et que j'avais proposée. Quand on a eu l'idée de collaborer ensemble, j'avais proposé de commettre un sacrilège. Mais je ne savais pas encore que ça en était un. J'avais proposé de raconter la suite des aventures de Don Quichotte. C'est une idée qui m'était venue lors d'un voyage en Amérique latine, en Équateur, où j'avais vu, chez la personne qui nous logeait, j'avais vu un tableau au mur qui représentait Don Quichotte. La personne peignait, il y avait peint un Don Quichotte. Et ce Don Quichotte équatorien m'avait suggéré l'idée de la suite des aventures du chevalier à la triste figure, mais dans l'altiplano, dans la forêt amazonienne. Quitte à le faire revivre. Pourquoi pas une uchronie, après ouais. tout. Mais l'idée n'a pas plu du tout à Juanjo.
Pourquoi?
Disons que Cervantes, lui-même, il a été victime de nombreux pastiches et contrefaçons à l'époque entre les deux parties de Don Quichotte. Il est paru plusieurs autres livres avec des aventures de Don Quichotte faites par d'autres auteurs, des faux Don Quichotte, des apocryphes, et notamment un qui a été célébrissime, El Quijote de Avellaneda, comme on le connaît, et qui a fait ce certain Avellaneda, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'était son nom, si c'était un autre auteur sous pseudonyme, mais en tout cas, le gars, il s'est enrichi avec ça, il s'est fait un paquet de thunes sur le dos de Cervantes et de Don Quichotte, donc du coup, Don
Quichotte...
Pour
vous, c'est sacrilège,
et vous êtes... Oui, il y avait un peu ça. Ouais. Donc Cervantes, il a tué le personnage justement pour éviter que d'autres inconscients et profiteurs ignobles de notre genre fassent avec Don Quichotte ce qu'on a fait finalement avec Pablos.
Avec Pablos de Ségovie. Alors que raconter avant d'arriver à la bande dessinée, à la suite que vous imaginez à ce roman, qu'est-ce qui racontait le roman à l'origine?
Finalement, c'est la vie d'un picaro, d'un survivant, c'est un gueux qui raconte sa vie à la première personne et à qui arrive moult misère. Il passe souvent de maître en maître, il est toujours maltraité, il est toujours affamé, il essaye toujours d'améliorer sa condition sans jamais réussir.
Si je comprends bien, dans le roman, il ne quitte pas l'Espagne, vous allez le faire voyager.
Oui, parce que il l'annonce. Le livre se termine sur l'annonce de son voyage aux Amériques, décidé passer à India, comme il dit, pour chercher fortune. Il a décidé de s'embarquer pour les Indes et ça ouvrait une porte. D'ailleurs, il annonce une deuxième partie que Quevedo n'a jamais écrite. Comme moi, j'ai lu le livre, j'avais lu des bribes pendant le lycée et j'adorais déjà. J'avais commencé à le lire, mais j'avais pas fini. J'avais fini plus tard et quand j'avais fini, je me dis ah. Chouette, il y a une deuxième partie, j'avais hâte de la lire et j'ai appris par la suite. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc j'avais pas façon de, je sais plus comment j'ai eu le renseignement, comme quoi, il n'y avait pas de deuxième partie. Et quand Alain m'a évoqué cette idée de possibilité d'aventure Don Quichotte dans les Indes, j'ai dit, pas Don Quichotte, mais Pablos de Ségovie. Il part, en fait, dans les Indes à la fin du roman.
Alors, là, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous plongez dans l'histoire?
Je plonge dans l'histoire et je lis cette histoire qui est à la fois truculente et très corrosive avec un humour noir, très acide, très noir.
C'est un trait du roman picaresque.
Ouais. Et mais celui de Quevedo est particulièrement noir et ce personnage se débat désespérément, le Pablos de Quevedo se débat désespérément dans sa misérable condition en essayant de se hisser au-dessus de sa condition. Il n'y parvient jamais et il est toujours cantonné à ce qu'il retourne à ce qu'il est, c'est-à-dire un gueux dans une société très hiérarchisée, très hermétique où il est impossible d'accéder à un meilleur état.
Il n'y a pas d'ascenseur social. Non,
voilà, exactement. Et lui, ce qu'il fait justement, quand il à la fin du roman, il décide de partir pour les Indes pour essayer de voir si son sort s'améliorerait en changeant de monde et de pays. Mais Quevedo conclut avec une certaine morale puisqu'il dit celui qui ne change que de lieu et non de mœurs n'améliorera jamais sa condition. Donc notre Pablos, dans la suite, va peut-être réussir à améliorer sa condition en changeant de mœurs, mais peut-être pas exactement de la façon dont l'entendait Quevedo.
On va expliquer quand même le titre de la bande dessinée. Je rappelle, édité par Delcourt, Les Indes Fourbes, au pluriel. Les Indes parce que c'est comme ça qu'on appelait l'Amérique, le nouveau continent à l'époque.
C'est Alain qui a décidé du titre que j'ai trouvé très musical, musical déjà parce que ça évoque les Indes galantes de Rameau. Et rien que pour ça, moi, ça m'a touché, mais je trouvais que c'était une phrase, les Indes fourbes, je trouvais ça extraordinaire. Le hic, c'était que ça pouvait peut-être être mal compris par le public français.
Oui, parce qu'on pouvait s'attendre à découvrir une histoire de Maharaja, mais pas du tout. Et c'est en ça que déjà le titre en lui-même est fourbe. Mais il est sous-titré, ce titre. Le titre complet, ce n'est pas que les Indes de fourbes.
À la manière des romans de la littérature de l'époque. Alain Hérole, vous êtes compliqué la tâche, parce que non seulement vous rentrez dans l'ambiance du roman, mais Vous suivez exactement la philosophie même de la construction de ce roman. Parce que là, ce qu'on va avoir, c'est donc les aventures de ce Pablos de Ségovie, mais selon ce que lui veut bien nous raconter de ses aventures. Or, il est un peu mythomane.
Oui, parce que le genre picaresque, j'ai voulu respecter les canons du genre picaresque dans la façon de raconter. Et dans le genre picaresque, il y a une constante, c'est un récit à la première personne. C'est un gueux qui raconte sa vie. Et donc, c'est le cas de notre héros.
Ouais, mais sauf que
c'est très subjectif, forcément.
Non seulement c'est subjectif, mais c'est un menteur, on peut le dire.
C'est un menteur impénitent et qui va essayer de balader son auditoire du début à la fin de l'album.
Et vous-même, les lecteurs.
Peut-être le lecteur, mais je crois qu'il a réussi même à nous entourlouper, nous, les auteurs.
Comment ça?
Il a fini par se rendre sympathique à nos yeux, alors que si on le regarde un petit peu, de manière un petit peu objective, ce type est une ordure.
Il nous a contagié son ambition, son énorme ambition impossible à assouvir, pas à ce point-là, mais au moins de doubler quasiment la pagination qu'on avait en tête au début du projet. Le livre a pris de l'ampleur au fur et à mesure qu'on élaborait l'histoire, qu'on la construisait, et on a eu un peu cette contagion de l'ambition de Pablos. Le livre, il était ambitieux de départ, mais il est devenu beaucoup plus ambitieux.
C'est très drôle, très souvent très drôle, mais l'aventure est là, et puis surtout la découverte d'un monde. Donc je suppose que pour vous, Juanjo Guardino, ça devait être un plaisir que de représenter toute cette nature que le personnage principal va découvrir pour la première fois, parce que il va atterrir dans une communauté, on est dans l'Amazonie, il va être confronté à des paysages nouveaux que vous représentez d'ailleurs dans cette bande dessinée de 160 pages. Il y a une séquence qui dure une dizaine de pages où il n'y a pas une seule parole, c'est-à-dire que la narration, c'est juste les décors, l'action.
Et ça encore, ça a un sens, ça va dans le sens de ce récit et de cette réflexion, mine de rien, du rôle de raconteur d'histoire. Ouais. Donc c'est un peu une mise en abîme de nous-mêmes en tant que raconteurs d'histoire, des auteurs de bande dessinée, des auteurs littéraires aussi si on veut, par rapport à une certaine utilité stratégique, narrative, qu'on laisse découvrir au lecteur. Ce n'est pas banal.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
En compagnie du dessinateur Juanjo Guarnido et du scénariste Alain Hérol pour la bande dessinée Les Indes Fourbes aux éditions Delcourt, une bande dessinée qui se présente comme la suite d'un grand roman classique espagnol du XVIIe siècle et qui nous fait voyager des rues de Ségovie en Espagne jusqu'à l'Eldorado, le Nouveau-Mexique, de galère en galère. L'histoire d'un gueux qui est aussi le prince des entourloupes. Comment vous l'avez représenté Juanjo Guarnido, parce que, a priori, quand on voit cet homme qui pose comme dans une toile, on a envie de lui faire confiance.
Disons que c'est particulier parce qu'il y a un côté intrigant chez lui et dans cette idée de couverture, justement, où on voit que c'est quand même un gueux, il est mal rasé, il a les cheveux en pétard et il a une expression assez fourbe. Mais pourtant, il est habillé en noble. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était un peu, excusez-moi d'évoquer, en faisant ma propre pub, la couve du premier Black Sabbath, mais c'était ça le fait recherché. Qu'est-ce qu'il fait ce chat en train de fumer?
Vous avez des modèles? Vous travaillez avec des modèles?
Là, non. Enfin, il y a des modèles. J'ai exercé dans l'atelier d'Alex Alice, qui est un grand auteur et grand ami, la technique du portrait pendant un bon nombre de séances pour me préparer pour cette peinture, parce que c'est effectivement un tableau à l'huile. J'ai notamment engagé un ami qui est venu poser deux fois, qui a des traits maigres comme Pablos et un peu...
En costume un peu... d'époque.
Ouais.
C'est là qu'on retrouve aussi la démesure. Une peinture à l'huile pour la couverture d'un album, c'est quand même plutôt rare.
Mais c'est vrai que j'ai loué un costume d'époque, je l'ai mis sur un mannequin, j'ai fait venir encore un autre copain pour qu'il le porte. Et oui, il fallait...
Et vous étiez où à l'aérole? Est-ce que votre travail de scénariste s'arrête une fois que vous avez terminé l'histoire ou vous continuez à travailler autour de l'histoire?
On a échangé jusqu'au bout.
Ça vous a pris quelques années, hein, cette histoire?
Oui, ça a été très très long.
Très long, c'est quoi? J'ai lu quelque part 6 ans, 7 ans,
plus,
10 ans.
Bien 10 plus 10 ans.
Alors, 10 ans, ans. Tout, 10 ans en tout, et 3 années et demie effectives de travail à plein temps, pour moi, après la conclusion, enfin, une version définitive du scénario.
Est-ce que votre traitement graphique renvoie aussi à quelque chose de très précis qui nous aurait échappé dans la peinture de l'époque?
Il y a beaucoup de références à la peinture d'époque et je me suis souvent basé sur des peintures d'époque pour rechercher des palettes de couleurs, non seulement comme documentation graphique pour voir tout ce que les tableaux d'époque peuvent nous apporter en termes des armes, des armures, des accoutrements, des coiffures, mais au-delà de ça. Il y avait une recherche de certaines palettes qui évoquaient l'époque, et pas que des tableaux espagnols, parce que les tableaux espagnols d'époque sont assez sombres en général. Il y a des tablettes plus gaies dans la peinture flamande et hollandaise. Et bon, de tout ça, ça donne quelque chose de forcément différent, parce que tous ces tableaux sont à l'huile, et moi je travaille à l'aquarelle. Forcément, l'approche technique n'est pas la même, mais bon, il y a une évocation, il y a une volonté.
Tout ça donne une très belle bande dessinée, mais pourquoi vous êtes compliqué la tâche?
Parce que je le fais toujours. Quoi qu'on soit, qu'on me mette devant comme boulot, je vais avoir tendance à me compliquer la tâche de façon assez radicale et démesurée.
Voilà, l'auditeur attentif du Réveil culturel sait reconnaître l'arrivée d'Olivier Delcroix. C'est toujours le rire, le sourire d'Olivier Delcroix. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors
ça
cette
va,
bande, bah oui, très bien. Et on vous attendait avec deux pieds fermes parce que cette bande dessinée, vous étiez le premier à m'en parler en disant qu'il fallait surtout pas passer à côté les Indes fourbes. Je rappelle d'un aérole et de Guarnido.
Juanjo Guarnido.
On n'a pas encore parlé du découpage, de comment cette histoire d'un grand mythomane va avoir un vrai traitement graphique qui épouse l'histoire et même le personnage. Comment on travaille le découpage de telle bande dessinée? Est-ce que c'est votre rôle, Juanjo Guarnido, ou est-ce que avec Alain Erol, tout était préparé, vous saviez très bien comment vous alliez nous faire perdre d'un côté, ouvrir des tiroirs, parce que c'est un récit à gigole, c'est-à-dire on se perd, et ça fait partie du personnage, on a affaire à un mythomane.
Déjà, effectivement, le découpage, la construction générale du récit, c'est le labeur magnifique de Alain sur ce projet.
Tout est écrit, hein.
C'est écrit, mais faut dire que moi j'ai l'habitude d'avoir un scénario écrit avec les autres bandes dessinées que j'ai fait, sauf que Alain, en général, il travaille avec ses autres dessinateurs en faisant lui-même un découpage très précis. Donc du coup, il a fallu s'adapter, il a fallu que chacun fasse un pas vers l'autre et qu'on trouve une façon de travailler différente pour ce livre-là.
Surtout qu'il demandait, ça demandait beaucoup de précision, parce que justement, il y a beaucoup de faux-semblants dans le récit, beaucoup de sauts dans le temps, des pages qui se répondent en miroir, en écho, et qui demandent une rigueur terrible dans la
construction.
D'horlogerie, oui.
Olivier Delcroix. Alors justement, on vous attendait pour nous parler des Indes fourbes.
Mais en fait, non, effectivement, moi, ce que je remarque d'abord, c'est que du point de vue de l'intrigue, on est sur une fusion réussie entre le polar et le film de KPDP. C'est-à-dire qu'en fait, on est entre Usual Suspect et L'homme qui voulut être roi de John Huston. Et effectivement, quand on parle d'horlogerie de précision, il s'agit de mettre en place une arnaque moderne, donc un récit qui va être capable de captiver l'auditoire du troisième millénaire, avec une bande dessinée avec un tempo incroyable. Moi, c'est ça aussi qui m'a beaucoup bluffé. C'est magistral. Et en même temps, rendre hommage à toute l'hispanité l'attitude, on pourrait presque dire, de Juanjo Guarnido. Et donc, en suivant le personnage du Buscón, en fait, ce personnage qui cache son jeu pour mieux le révéler à la fin, on est, mais alors, mené en bateau de A à Z sur 160 pages. C'est bluffant. Il y a tout. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, vous avez un personnage qui va, quelque part, arriver avec cette carte au trésor, avec cette promesse d'aventure. C'est, je vous dis, quand c'est John Huston, c'est John Huston. On est sur la carte au trésor, on est sur Eldorado, on va découvrir un trésor, on part avec lui, il embobine son monde, c'est incroyable.
Le lecteur en premier d'ailleurs, parce que
nous, il nous bluffe. Là notamment, je me souviens avoir discuté d'une planche en fait où on a deux personnages qui sont diamétralement opposés, dont on raconte l'histoire. Je ne vais pas divulgâcher, mais en réalité, c'est...
Divulgâcher, pas mal. Hein, je vous la piquerai, celle-là.
Elle est rigolote. Ouais. Hein. Mais voilà, je ne vais pas spoiler pour parler anglais.
Voilà, pour parler comme tous les Français anglais.
Mais en fait, c'est quand même une trouvaille scénaristique incroyable qui nous donne l'impression d'assister à deux personnages qui s'éloignent alors que c'est le même. Et c'est brillantissime.
Et à la fin, on a qu'une seule envie, c'est de retrouver le livre.
Et après, on relit les 160 pages en disant « Ah oui, j'avais rien compris, ils m'ont mené en bateau ».
Et pour le dessin, comment définiriez-vous votre dessin ? On n'est pas dans le style réalisme, mais on n'est pas loin.
Mais c'est le style qui naturellement sort de moi quand je dessine en liberté. Parce que je n'ai... Voilà, c'est
dessiner
c'est
en liberté, naturel. C'est-à-dire dessiner en dehors de Marvel et de Disney vous...
Par exemple, ouais. Parce que chez Disney, vous avez des paramètres pour Marvel aussi.
Et vous
aussi.
Avez beaucoup travaillé pour l'un et pour l'autre.
Pas beaucoup pour Marvel, mais un petit peu pour l'édition espagnole. Beaucoup pour Disney, évidemment. Mais bon, finalement, c'est un registre qui est celui qui me convient, qui est assez similaire à celui d'une bonne partie des films Disney classiques. C'est un style semi-réaliste. C'est réaliste, mais avec une pointe de caricature, voire un degré de caricature chez les personnages, qui est variable selon le personnage et selon les situations. C'est le créneau dans lequel je me trouve... le plus à l'aise, parce que c'est confortable pour moi, et c'est là que je m'exprime bien, donc je me suis fait plaisir. Sur Black Sad, c'est exactement le même ou quasiment le même registre, sauf que en animalier. Et ici, c'est avec des personnages humains, mais alors, voilà, le créneau est le même.
Quand le spécialiste des animaux se met à dessiner des humains, ça passe comment?
Je suis pas spécialiste des animaux, mais si une partie du public me considère que j'en suis un, c'est parce qu'ils connaissent de moi essentiellement Black Sad. Mais
est-ce qu'il y a une morale à cette histoire?
S'il y a une morale, c'est une morale en creux. Oui. C'est plutôt c'est l'exemple contraire de ce qu'il faut faire qui est raconté.
Mais est-ce que vous étiez dans une bulle, ou est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui, l'actualité, ou tout ce qui s'est passé dans votre vie, pouvait s'exprimer à travers cette histoire?
Quand on fait une fiction, elle se nourrit à diverses sources, y compris au réel, et ce type de fiction-là, il y a toujours une part de satire, à fortiori dans le genre picaresque dont elle fait partie, il y a une part de satire, donc on peut retrouver évidemment des accents satiriques qui parlent de réalité du XVIIe siècle qui sont hélas toujours d'actualité.
C'est vous parlez des fake news ou pas seulement?
Alors, ce qui est amusant, c'est quand on a conçu, on a eu les premières idées, que les premières ébauches du scénario ont été posées. On n'était pas encore dans cette ère de post-vérité dans laquelle on est entré de plein pied. Ouais, mais là, ça se posait pas encore comme ça. Mais il y avait, par contre, l'idée du mensonge comme fil conducteur de l'histoire était déjà bel et bien là. Et le temps de finir l'album, on avait changé d'époque et on était rentré dans cette ère de fake news, de post-vérité, où il faut savoir discerner le vrai du faux, où l'importance de la vérité elle-même est remise en question. Et là, on a justement un personnage qui ment et qui raconte une histoire. On parle beaucoup de storytelling au sujet de la politique, au sujet de tout un tas de choses qui ne devraient pas être racontées de manière divertissante, mais juste factuelle. Et là, on a justement ce personnage qui utilise le storytelling. C'est un storyteller, un raconteur d'histoire, et il va utiliser sa capacité de raconteur d'histoire pour amener les gens là où il veut.
Les Indes fourbes aux éditions Delcourt. On est très content de vous avoir eu avant le Festival d'Angoulême et avant son palmarès. Merci beaucoup d'être passé aujourd'hui. Merci beaucoup Juanjo Guarnido et merci beaucoup Alain Hérol.
Merci à vous.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Et une fois par mois, Olivier Delcroix du Figaroscope est notre chroniqueur. Et aujourd'hui, vous venez avec le dernier numéro du Figaroscope. Paris sur Seine, ça veut dire quoi ça?
Paris sur Seine, mais disons que c'est après les fêtes, donc on est plutôt sur Paris sur Seine, dans le fracas quotidien d'un Paris chaotique. Après les fêtes et les excès en tout genre, finalement, essayons de retrouver...
On parle pour vous, hein.
Essayons de trouver un peu le côté zen, le côté retrouvons la méditation, le yoga, etc. Donc en fait, on s'est amusé à essayer de retrouver justement toutes ces adresses en ce moment qui nous permettent de retrouver notre quant à soi, maigrir après les fêtes, retrouver un petit peu de sérénité, d'un grand zen qui veut dire Zorro, et notamment par exemple pour rester dans la métaphore cavalière
des Indes fourbes,
nous avons accueilli dans nos pages une jeune femme qui est cavalière émérite et qui va nous parler, c'est Élodie Garamond, de l'itinéraire d'une parisienne zen pendant 24 heures, de 6 heures du matin jusqu'à 23 heures le soir. Voilà. Donc, toutes ces idées pour se recentrer sont dans le Figaroscope.
À très bientôt, Olivier Delcroix.
Merci.
De toute manière, on se croise au Festival d'Angoulême, bien sûr.
Ah, bah, évidemment.
Bah, c'est la semaine prochaine.